Bargerus 1031 au cœur de l'attente.
Bargerus 1031. On écoute Ornette Coleman, son double quartet. C'est dans l'attente de quelque chose que le public, qui ne se pose pas de questions, dilue sa volonté en paresse. Tirer une taffe dans l'attente de ce qui est, de ce qui va se passer dicte l'inconscient. Au fumeur. Ou plutôt, l'inconscient dicte au fumeur de tirer une taffe dans l'attente de ce qui va se passer. Au cas où quelque chose arrive, le fumeur est occupé à fumer. Nous pouvons alors dire qu'il est dans l'attente de s'occuper. Ensuite, il y a celui qui manipule son cellophone, son cellular phone, son téléphone portable mobile, dans l'attente d'un appel. Comme ça, si quelqu'un appelle, s'il est appelé, il donnera l'impression d'être occupé. Ces deux exemples, qui ne concernent pas tous les appels ni tous les fumeurs, mais beaucoup, sont des achèvements, des illusions qui occupent pour passer le temps et éviter de réfléchir. Il ne s'agit pas de complot, de Bouygues ou SFR ou les mecs qui sont au-dessus de Bouygues et SFR, mais de restrictions à l'humain qui est à l'entité qui est face à ça, qui agit dans ces raisons-là avec un inconscient, car réfléchir change le monde, et Bouygues ou SFR ou ceux qui ce qui est au-dessus ne veulent pas que ça change, mais ça a toujours été comme ça. Donc dire que c'est un complot, c'est une erreur. Parce que ça a toujours été comme ça. Donc, de quel amour est-il question ? De l'amour depuis un point de vue qui, s'il n'est pas partagé, annonce, prépare, au nom d'une ascendance fortuite, des disputes, des mix de haine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Parce que l'amour, c'est tout et rien. Hein. C'est comme le côté invisible. C'est tout et c'est rien. C'est là, on s'en rend pas compte, quoi. Maintenant, on va écouter d'ailleurs The Beauty of Love de Don Armando. De. Comment s'appelle cette compile ? Disco. Mutant Disco. J'avais le tome 2 en vinyle déjà, j'ai trouvé le 1 en CD, en médiathèque. Donc on va s'écouter, c'est dedans. The Beauty of Love. We'll be right back. Si on revient plus dans le la mystique de l'amour en fait, telle qu'elle peut être décrite dans des religions, c'est dans la psychologie du chapitre théologie mystique de la passion de Hussein ibn Mansour al-Haj du tome 3 de Louis Massignon que je vais vous lire un passage. Dans l'inventaire des données coraniques. L'essentiel de l'homme, c'est au-dedans d'un morceau de chair placé dans ce creux central. Un mouvement, oscillation régulatrice, pulsation permanente et incommunicable. Un ressort caché de gestes, deux petits points, le cœur, qui se trouve être donc le vide intérieur central, qu'on est obligé d'enrichir, quoi, ce vide. C'est le lieu secret et caché de la conscience dont les confidences seront mises à nu au jugement. L'âme, dans ce creux intérieur et secret, s'accumule de par la digestion qui s'y opère des sensations et des actes de divers résidus. Amas incohérents et obscurs d'illusions flottantes, pensées et désirs qui n'ont ensemble en propre que cette inconstance perpétuelle, ce vacillement particulier que leur imprime l'oscillation individuelle du cœur. Vie précaire, c'est l'âme, le moi. Donc dans le cœur, dans ce vide intérieur, parce que c'est la pulsation le cœur, donc c'est pas le cœur, mais c'est... dans notre l'âme, c'est le moi, c'est le vide intérieur qui a besoin de richesse s'il veut faire quelque chose de sa vie, quoi. Donc se poser des questions. On revient, selon moi, toujours au même, quoi. Donc, le dilatement de la poitrine, l'âme, embryon factice d'une personnalité immortelle, ne peut prendre consistance que grâce à une intervention divine. Forcément, on est dans la religion. Instantanée et renouvelable. Mais après, moi, je suis d'accord aussi avec ça. Divine dans le sens transcendantal. La force transcendantale est là, quoi. Comme je vous ai déjà dit, hein, je le redis encore, au cas où il y en a qui arrivent aujourd'hui, mais Dieu, ouais, c'est, on peut donner son nom. Ce nom à Dieu, cette force mystique, quoi, transcendantale. L'aide d'un esprit. Attends. Réitération de cette impulsion créatrice initiale qui mit le cœur en branle. Mais cette intervention due à l'aide d'un esprit, à l'insufflation de l'esprit. Dieu met à nu la paroi du cœur, écarte ses voiles, le circoncis, comme au moyen d'une étincelle. Virgule, la foi. Donc comme j'ai dit dans les barrages passés, j'ai déjà dit il y a très longtemps, la foi, moi je ne sais pas si je peux dire avoir la foi religieuse, j'ai la foi, en tout cas j'y crois. Mais n'appartient pas forcément, ne crois pas en les religions. Ce qui ne fait pas de moi un athée, bien au contraire, parce que j'y crois. Je suis persuadé qu'il y a une force, un côté invisible, une force transcendantale. Elle en fait une mémoire où l'homme retrouve sa vocation pré-éternelle de croyant, où elle la lui fait lire, pour l'énoncer en une langue ordonnée et construite, où elle lui fait prendre conscience, hic et nunc, de sa vocation primordiale, mitrak, de la prédétermination divine de ses actes et de ses gestes, où elle les lui fait comprendre comme des signes. Pas mal ça, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps dans les barjouris. Les signes sont à suivre, à écouter, et ça c'est ayat. Incomparable, irrécusable et direct de l'omnipotence divine, le cœur a été fait pour permettre à l'homme de porter le poids surnaturel. Et là j'ai annoté, waouh, Hantal Amana. Peut-être le lieu de l'inévitable comparution de l'homme devant Dieu. Le cœur. Fortiche, hein. J'adore ça. Waouh. Que le cœur a été fait pour permettre à l'homme de porter le poids surnaturel. Tu vois, les pulsations, ça représente la force sismique, quoi. C'est géant. Donc pour continuer cette émission au cœur de l'attente qui continue un petit peu, qui donne une interprétation de l'amour dans les barges là qui ont commencé la semaine dernière et qui vont continuer cette semaine, eh bien on va faire appel au professeur Schmidbly et qui va nous parler de Nietzsche encore.
Oui, exactement. Oui, bien vu, John Tibbeck. Très bien, oui. Oui, vous savez, Friedrich Nietzsche, que j'aime énormément, j'ai parcouru de nombreuses reprises. Et lorsque vous m'avez parlé de ça, j'ai repensé aux considérations inactuelles. Oui. Qui est en quatre parties, bien sûr. Quatre tomes. C'est la première qui est intéressante. La première qui est David Strauss, l'apôtre et l'écrivain. Oui. Oui, qui en tout cas intéressante avec tant d'autres choses. Mais vous parliez de cette religion iranienne, l'islam en Iran. C'est l'Allemagne, c'est protestant, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi être. Ça part d'un point de vue protestant, n'est-ce pas? Nietzsche n'était pas plus protestant que ma sœur, non, elle n'était pas protestante, non. Oui, vous ne connaissez pas ma sœur. Non, mais. J'ignore. En tout cas, quoi en soit, j'ai pensé à ça. J'ai pris mon texte, j'avais déjà surligné un petit peu, j'ai relu. Je vais relire avec vous, hein, et je vais interpréter pour vous, Jesse Beck. Oui, allez-y. Oui, je vais y aller. Oui, c'est moi, tranquille. Donc, voici maintenant jusqu'où va le courage de la nouvelle religion, que la nouvelle religion, pardon, insuffle à ses adeptes. Cette question serait elle aussi déjà résolue
si courage et immodestie étaient synonymes.
Eh bien, première chose, je veux vous rappeler, le ciel du nouveau croyant, cette nouvelle façon que David Strauss a eu d'employer la chrétienté, le ciel, donc, qui est un théologue, David Strauss. Le ciel du nouveau croyant, dit-il, doit naturellement être un ciel sur la terre. Car Nietzsche, donc, cite David Strauss, la perspective chrétienne d'une vie éternelle et céleste, c'est, ainsi que toutes les autres consolations, irrémédiablement effondrée. Pour quiconque se tient, ne serait-ce que d'un pied, sur la position straussienne, rajoute Friedrich Nietzsche. Donc, Dieu est mort. Bien, voilà. Il y avait, David Strauss était un partisan, peut-être bien, de cette, du matérialisme qui emportait le, qui emportait la société, qui est envenimée, n'est-ce pas? Ouais, ouais, pour cette raison, Friedrich Nietzsche a écrit cet essai, Considération des inactuels, pour, en l'honneur, je dirais, de David Strauss. C'est où? L'apôtre et l'écrivain. L'apôtre, c'est ça qui est très très important. Je vais donc continuer, si vous permettez. Oui. Donc là, c'est vrai. Vous savez, dans la religion, je vous ai bien écouté, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs Henri Gorman. Je n'ai pas lu aussi intensément que vous, me semble, Johnny Tufbeck, non, mais ses livres, oui, sur l'Iran, l'islam, fantastique. C'est un auteur remarquable, Henri Gorman. Oui, oui, il est incroyable, oui. J'ai parcouru le cahier de Lerne, Henri Gorman, et l'homme de lumière aussi, le sophisme iranien. Oui, d'ailleurs, c'est très très bon, oui, oui. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié, beaucoup appris, oui. Oui, je reviens. Donc, je vais continuer, si vous permettez. Donc, toujours avec Nietzsche à propos de David Strauss dans Considération des inactuels numéro 1. J'ai écrit, annoté, comment dire, interprétation. Car oui, je vous parle de Corban, pourquoi? Parce que l'islam est extrêmement interprété. C'est une religion d'interprétation et donc qui emmène tous ces démêlés qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'actualité. Mais il me parle d'interprétation aussi au sujet de la chrétienté. Les aboutissants sont sont pas les mêmes. Mais, pas, je n'ai plus l'adjectif. Nous sommes je suis désolé. C'est pas grave, professeur. Je me dis. Oui, je perds mes mots. C'est la vieillesse. Donc, oui. Mais qu'est-ce que vous dites? Fuck. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Oui, donc, c'est vraiment aussi la chrétienté. Il y en a pléthore, mais c'est bien plus, bien moins ou bien plus, en tout cas différent, oui, de l'islam. Entre toutes les différentes nuances, voilà, dont scintille aujourd'hui le christianisme, donc les sujets d'interprétation, il ne peut s'agir pour nous que de la plus extrême, de la plus pure, et de savoir si nous pouvons encore nous réclamer d'elle. Oui, car elle a tellement, à cette époque où ça a été écrit, au 19e siècle, n'est-ce pas, des bouleversements dans les sociétés, la chrétienté, oui, qui a emmené un conformisme, oui, peut-être pour un contrôle, je ne sais pas, j'ignore. Consommation, je ne pense pas, mais quoi que, à se demander si tous ces objets qu'elles vendent, certains membres de la religion ne font pas un excès sur ces croix, des tasses avec la Sainte Vierge dessus, je sais pas, j'imagine le pire, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. Je suis d'accord. Enfin, Nietzsche, je n'aimerais pas, je ne pourrais pas le dire. Je veux raccorder. Oui. Avec cela, il resterait incertain s'il s'agit d'un héroïsme extérieur ou intérieur, de combat à ciel ouvert ou dans les profondeurs du cœur humain. Pour notre époque surexcitée, dont la maladie se manifeste notamment dans les penchants musicaux. Oui,
car la musique, oui.
Bon, j'ai cité, oui. La musique, elle transparaît tout ça, bien sûr. Mais à l'époque, c'était de la musique classique. Hein.
Oui, bien sûr.
C'était pas Youpla la bande, tu vois. Non, absolument pas. C'était Strauss, Richard Strauss, par exemple.
Ensuite, plus loin, quand nous voyons ce grand héros en parole qu'est Strauss dénoncer la supercherie historique de la résurrection de Jésus, nous voudrions seulement lui demander, du point de vue de la langue, n'est-ce pas, qu'il accuse de porter la responsabilité d'une telle supercherie. C'est-à-dire de cette tromperie opérée sur autrui, dont l'intention de réaliser un bénéfice personnel. Qui trompe, qui profite, car nous ne saurions nous représenter une supercherie dans un sujet qui cherche son profit.
Donc là, nous voyons le protestantisme. Oui. Oui, donc là, tout est un peu emmêlé. Voilà.
Donc pour continuer, une nouvelle citation de David Strauss, l'apôtre écrivain de Nietzsche. Donc une citation de Nietzsche, de David Strauss, comme je disais. Lorsqu'il est blessé, notre sentiment pour l'univers réagit religieusement. Eh bien, au XIXe siècle, ça ne m'étonne pas. Non, absolument pas. Aujourd'hui, ça m'étonnerait davantage. Quoique pas totalement, mais davantage. Voilà ma profession de foi, écrit-il, Friedrich Nietzsche. C'est celle d'un isolé. Oui. Et que peut un isolé contre le monde. Nous sommes à la dernière page de cet essai. David Strauss, l'apôtre écrivain. Provident, aussi longtemps que l'on trouvera inactuel ce qui a toujours été d'actualité, n'est-ce pas ? Ce dont aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, que l'on dise la vérité.
Okay, c'est beau. C'est très beau. Merci, merci beaucoup, Friedrich Nietzsche.
Donc là, j'avais annoté, n'est-ce pas, à l'époque. David Strauss aurait écrit un ouvrage que je n'ai jamais lu encore. J'avais oublié, d'ailleurs. L'ancienne et la nouvelle foi. Ah oui, ce serait très intéressant de lire ça. Ah oui, oh oui, très intéressant. Mais d'un point de vue protestant, donc bon, oui, pourquoi pas, intéressant, oui. Donc, Dieu est mort et ses absolus, avais-je écrit, mais pas la foi qui est décalquée dans la métaphysique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là à l'époque où j'ai écrit ça ? Voyons, je ne sais pas. Alors, je sais. Dieu est mort. Et ses absolus, donc dans cette nouvelle foi peut-être, mais pas la foi. La foi ne peut pas mourir, mais Dieu peut. Enfin, dans la métaphysique, qui est décalquée. Ah oui, d'accord, je vois. Oh, pas mal. Voilà.
C'était Love is Like Gravity par Père Ubu de leur album de 2023. Toujours aussi remarquable ce professeur Schmilbli. Il en est même à dire que c'était pas. J'essaie d'imiter. C'était pas mal. Ah, il est marrant. En tout cas, c'est un sacré rigolo. Il est parti ? Ouais. Il est parti pisser, je crois. Bon, bref. Moi, je vais maintenant vous passer la lecture de quelques passages de la nouvelle L'amour d'Anton Tchekhov. très très bon. C'est une nouvelle très très courte, il fait 3-4 pages seulement. Donc là, parce qu'il est question d'une description de l'amour, mais d'une occidentalisation. Par rapport à ce que j'ai pu vous dire, par rapport à l'amour, bon, l'amour mystique, l'amour de la force transcendantale, qui, elle, est dans sa pureté même, quoi, tu vois. C'est ce qu'il fait, c'est ça qui est omniscient partout. C'est cet amour-là dont je vous parle. Et bien là, dans cette nouvelle, l'amour est... J'ai trouvé, pour moi, une occidentalisation de l'amour, même si c'est un russe qui l'écrit, dans son illusion de l'amour, dans sa personnification, vous allez comprendre tout de suite, dans le fait de se marier, de s'unir à quelqu'un, et qui fait de ça un complice du temps, en fait, l'unification. Mais bon, par là même, ça nous fait mûrir, voir les choses différemment. L'envie de prolonger à l'infini le processus même de l'écriture dans le silence de mon cabinet de travail où la nuit de printemps jetait ses regards et où je m'entretenais avec mes propres rêves. Entre les lignes, je voyais le cher visage. Et il me semblait qu'à la même table que moi étaient assis les fantômes, pleins du même bonheur naïf que moi, niais, souriant bêtement et appliqués, eux aussi agriffonnés. Parce que là, en fait, il écrit une lettre d'amour à la nana sur qui il a flashé, quoi. Voilà, donc là, il est dans son cabinet, il travaille, dans la jeunesse, hein, ils ont la vingtaine, quoi. Et plus loin, quiconque a jamais été amoureux se rappellera que lorsqu'on a mis la lettre dans la boîte, parce que bon, il écrit sa lettre, il écrit la lettre, il va la poster, on se hâte d'ordinaire de rentrer à la maison, une fois qu'on poste la lettre. Apparemment, il faisait souvent, parce que d'ordinaire on rentre à la maison rapidement. Bon, on se couche et on attire sa couverture avec la certitude que le lendemain au réveil, on sera envahi par le souvenir de la veille et qu'on regardera avec extase la fenêtre par laquelle la lumière du jour se frayera un chemin à travers les plis des rideaux. Donc, Tchekhov écrit très très bien, on peut voir, en tout cas la traduction est très bonne. Mais le contenu de la lettre ne me... Ah oui, donc il fait ça, il reçoit un télégramme. Bon bah j'ai bien reçu, et alors là le télégramme dit « Je suis ravi, venez absolument nous voir aujourd'hui s'il vous plaît, je vous attends. Votre S. » Donc là ça s'appelait... Ah oui, Sacha, il s'appelle Sacha. Donc bon, sympa, mais bon, il n'est pas content de la façon dont c'est écrit. « Ah ouais, non, c'est pas vraiment ça, elle n'est pas aussi amoureuse que je suis peut-être, tu vois. » Donc d'abord, on ne répond pas comme cela à des lettres poétiques, il se dit. Tchekhov, bon, le personnage en tout cas qui envoie le truc. Bon, bref, en tout cas, il va la rencontrer, et donc je continue. Mais les femmes n'aiment pas... Attends, il était 4 heures passées lorsque je me glissais dans le coin le plus reculé, le plus délaissé du parc municipal. Il n'y avait personne dans le parc, et le lieu du rendez-vous aurait pu être plus proche, dans une allée ou sous une tonnelle. Mais les femmes n'aiment pas le romanesque à demi. Le miel se prend par cuillerée entière et les rendez-vous se donnent dans les jungles les plus délaissées et les plus impénétrables, là où on a des chances de tomber sur un malandrin ou un petit bourgeois en goguette. Voilà, les rendez-vous, c'est où il n'y a personne, quoi. Bon, c'est ça. Et puis, caché du regard des autres. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Donc, il va au parc, il l'attend, en fait. Et lorsque j'approchais de Sacha, donc... Elle tournait le dos, bon, et puis un peu plus loin, comme je l'ai compris à présent, dans ce rendez-vous, je n'étais pas l'essentiel, mais simplement un détail. Ce n'était pas tant lui qui occupait Sacha que le romanesque de la rencontre. Tu vois, c'était plus la sortie qui, selon le personnage, c'est la sortie, l'événement de Sacha, donc qui l'intéressait plus que le mec qui a écrit la lettre, quoi, plus que le mec qui l'a invité. C'est ça qui oh, c'est magique, tu vois. Alors, ce n'était pas tant lui qui occupait sa jaque que le romanesque de la rencontre. Son mystère, les baisers, le silence des arbres moroses mais serments. Il n'y eut pas un instant où elle s'oublia, où elle se pâma, où elle cessa de prêter un air mystérieux à son visage. Et en vérité, s'il y avait eu à ma place un Ivan Sidorich ou un Sidor Ivanich quelconque, ce doit être des héros de roman, elle se serait sentie tout aussi bien.
Toi, donc, c'est ce qui est dit, c'est ce que je viens de vous dire. Quoi. Ce qui intéressait Sacha, c'est plus là. Ah oh, oh oui, on m'a invité dans un parc, tu vois, c'est ça en gros.
Comment voulez-vous, dans des circonstances pareilles, comprendre si l'on vous aime ou non, et à supposer qu'on vous aime, si c'est pour de vrai ou pas pour de vrai? Alors, on continue, on va un peu plus loin. L'avenir dont je lui parlais, parce que moi, ils discutent de choses et d'autres, tu vois, tatati, tatata, et là, de projets, et l'avenir dont je lui parlais ne l'occupait que du dehors, et c'est en vain que je déroulais devant elle mes plans et mes projets. Ce qui l'intéressait, c'était où se trouve... Attends. Ce qui l'intéressait, c'était où se trouverait sa chambre, quel papier peint elle y aurait, pourquoi j'avais un piano droit et non pas à queue, etc. Parce qu'apparemment, ils ont été chez lui. Et ben bah ouais, mais alors moi, si je viens, ma chambre sera où? Est-ce que je pourrais la décorer, tu vois? Ça l'intéressait plus que lui, ses plans et ses projets, quoi, pour vivre, en fait. Donc, elle examinait avec attention les bibelots de mon bureau, les photographies, reniflait les flacons, décollait sur des enveloppes le vieux timbre qui lui serait utile, je ne sais quoi. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Et donc là, alors elle lui dit s'il te plaît, garde les vieux timbres pour moi, bon, c'est des détails. Et là, pourquoi ne mets-tu pas d'étiquette sur tes livres? Demanda-t-elle, ayant jeté un regard à la bibliothèque. Il répond, bah pourquoi faire? Pour que chaque livre ait son numéro. Et mes livres à moi, où vais-je les mettre? Moi aussi j'ai des livres. Bon voilà, ça commence. C'est sûr, hein, les livres. Ouais, même tu viens, t'emmènes ton matos, hein, c'est clair. Ensuite, je reconduisais Sacha chez elle et j'en ressortis le plus authentique, le plus patenté des fiancés. Ce que je demeurais jusqu'au jour où on nous maria. Si le lecteur me permet d'en juger d'après ma seule expérience personnelle, j'affirme qu'être fiancé, c'est très ennuyeux. Beaucoup plus ennuyeux que d'être marié ou rien du tout. Le fiancé, ce n'est ni ceci, ni cela. Et alors là, il raconte des trucs... Attends, j'ai peut-être noté. Tous les jours, ayant trouvé un moment de liberté, je me précipitais chez ma fiancée. D'ordinaire, en allant chez elle, j'emportais une nuée d'espérances, de désirs, d'intentions, de propositions, de phrases. Il me semblait chaque fois qu'aussitôt la porte ouverte par la femme de chambre, moi, qui étouffais et me sentais à l'étroit, je me plongerais jusqu'au cou dans le rafraîchissement du bonheur. En réalité, les choses ne se passaient pas comme cela. Donc là, c'est là que ça commençait à être assez drôle. Chaque fois que j'arrivais chez ma fiancée, je trouvais la famille et la Mesny en train de coudre un stupide trousseau. Tatati tatata, de la rentrée, ces vagues apparaissaient la tête de Sacha dans un. Ah ouais, parce qu'il rentre dans la maison, puis c'est le bazar partout. Il y a la famille, tu te dis. Et donc là, dans ces vagues apparaissaient la tête de Sacha avec un fil entre les dents. Au début, je croyais que c'était un fil dentaire. Non, non, c'est un fil, c'est une couturière, en fait. C'est mieux. Tous ceux qui cousaient m'accueillaient avec des cris de joie. « Oh, il est mignon, il est bien, oh, c'est bien déjà !» Mais me reconduisaient aussitôt dans la salle à manger. Alors, pourquoi? Alors, où je ne pouvais ni les gêner, ni voir ce que n'ont le droit de voir que les maris. À mon corps défendant, j'étais obligé de rester dans la salle à manger, à m'entretenir avec la parasite Pimenova. Donc ça doit être la cuisinière. Sacha, soucieuse et inquiète, Sacha, soucieuse et inquiète, passait à chaque instant près de moi en courant avec un dé, une pelote de laine ou quelque autre objet ennuyeux.
Attends, attends, j'arrive, disait-elle. Quand je levais sur elle les yeux suppliants, imagine cette coquine de Stepanida a abîmé tout le corsage de la robe du barège. Et, sans qu'on m'eût montré aucune faveur, je me fâchais, je partais, et j'allais me promener par les trottoirs en compagnie de ma petite canne de fiancée. C'est ennuyeux et c'est révoltant d'écouter les femmes acheter. Ah ouais, parce que là, t'as les deux, t'as la maman et la fille, enfin sa belle-mère, et puis sa. Enfin, fiancée, il n'est pas marié encore. Et là, il se dit, ah ouais, on va aller se promener, et en fait, non. Promenade manquée. Je m'accrochais à ces dames et j'allais au passage avec elles. C'est ennuyeux et c'est révoltant d'écouter les femmes acheter, marchander et faire assaut de ruse avec le marchand qui les dupe. J'avais honte lorsque Sacha, ayant retourné des masses de tissus et fait briser et fait baisser le prix à minimum, quittait le magasin sans avoir rien acheté. Non, c'est ennuyeux la vie de fiancée. On s'en passerait bien. Maintenant, je suis marié. C'est le soir et je suis assis dans mon cabinet de travail et je lis. Derrière moi, sur le sofa, est assise Sacha qui mâche quelque chose bruyamment. J'ai envie de bière. Bon, c'est assez marrant. Et je me rappelle qu'au temps où je jouais les Casanova, je quittais une femme pour une tâche sur un bas, pour une seule parole stupide, pour des dents non brossées. Mais maintenant, je pardonne tout. Les mâchonnements, les histoires de tire-bouchon, la négligence. Les histoires de tire-bouchon parce qu'il lui demande d'aller chercher un tire-bouchon et puis elle ne le trouve pas et puis elle revient. La négligence. Les longues observations. Non, les longues conversations, pardon, à propos de rien. Je pardonne presque inconsciemment, sans faire violence à ma volonté, comme si les erreurs de Sacha étaient mes erreurs et bien des choses qui me gênait autrefois, m'attendrissent et m'enthousiasment même maintenant. La raison de cette magnanimité, c'est mon amour pour Sacha. Quand la raison de cet amour, en vérité, je ne le connais pas. Donc, bon, voilà, c'est terminé. Je vous parlais d'occidentalisation de l'amour. Oui, parce qu'il est question de tous les petits détails, comme les achats, les conversations sans fin qui mènent... qui sont pas tout le temps intéressantes, quoi. Autant toi quand tu racontes un truc que elle quand elle raconte quelque chose, quoi. Enfin, le compagnon, que ce soit masculin ou féminin. Et donc ça, j'ai trouvé ça une occidentalisation quand même de l'amour, mais l'amour est toujours là. Et on peut dire qu'on a tous la même, quoi, compagne. Ou on a tous le même compagnon. Il pleut. Et quand on se marie sous la pluie, il paraît que c'est pour la vie.
Je l'ai allumé après manger. À 14h, c'était la barge russe. Johnny est là en train de parler. Elle me fait de la guitare. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit, j'ai jeté mes disques. Tout contre elle qui est branchée. Ces harmonies m'ont rendu muet. Fatigué, je suis crevé. Toute la nuit j'ai écouté des émissions. Le silence, c'est tellement bon. Johnny et Moussa sans contrefaçon. C'était le moment de la réflexion. 14h05, la quotidienne. Et on se pose des questions. La barge russe, c'est une femme.